en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Bonjour. À l'occasion du 200e anniversaire de Charles Darwin, l'Académie des sciences a voulu rendre hommage à celui qui révolutionna le monde de la biologie avec son œuvre très controversée de l'origine des espèces. Charles Darwin, qui était un naturaliste anglais du 19e siècle, se passionna très rapidement pour les spécimens animaux et végétaux, la distribution géographique des espèces et les effets de la domestication. C'est ainsi qu'à la suite d'un tour du monde de 5 longues années, il se plongea dans l'étude des crustacés tout en préparant l'œuvre qui allait le rendre célèbre. C'est le 24 novembre 1859 qu'il publia la première des 6 éditions de son ouvrage « De l'origine des espèces ». L'année 2009 est donc à la fois le bicentenaire de la naissance de Charles Darwin et le 150e de la publication de son ouvrage. L'Académie des sciences est donc associée à cette commémoration en présentant un colloque sur la modernité de l'évolution. Plusieurs chercheurs se sont ainsi penchés sur différentes thématiques liées au darwinisme ou à l'évolution. Vous allez pouvoir écouter dans cette première retransmission l'intervention du professeur Armand de Réclès, membre du Collège de France, parler de l'évolution des idées sur le darwinisme.
L'évolution constitue un concept central de la biologie qui est fondé à la fois sur l'étude des organismes du passé et sur l'étude de la diversité et des relations de parenté entre les organismes actuels. Les progrès rapides actuellement réalisés dans les sciences de la vie et en médecine reposent sur des principes dérivés de notre compréhension de l'évolution. Cette compréhension découle à la fois de l'étude des données toujours plus abondantes issues des fossiles et de façon tout aussi importante de l'application des techniques issues des sciences biologiques et moléculaires modernes à l'étude de l'évolution. Cette profession de foi enthousiaste en faveur des sciences de l'évolution et de leur importance fondamentale ouvre un tout récent document publié par vos homologues de l'Académie des sciences et de l'Institut de médecine des États-Unis. Intitulé, comme vous le voyez, « La science, l'évolution et le créationnisme », cet ouvrage met l'accent par son titre sur certains paradoxes inquiétants qui interviennent en ce moment même dans notre société humaine en voie de mondialisation rapide. Et j'espère que ce document, particulièrement bienvenu en cette année consacrée au souvenir de Charles Darwin, sera très prochainement disponible en version française sur le site de l'Académie. Je me propose de rappeler ici à trait les étapes historiques ayant conduit à notre connaissance et compréhension de l'évolution. Je passerai entièrement sous silence les considérations issues de l'Antiquité, du Moyen-Âge et de la Renaissance pour partir directement du siècle des Lumières. Cette époque, intellectuellement foisonnante, est marquée dans les sciences de la vie par l'opposition entre grandes alternatives théoriques tels qu'oviste versus animalculiste et préformation versus épigénèse, en ce qui concerne la formation même des organismes. C'est dans ce contexte qu'apparaissent les premiers linéaments de ce que l'on appellera bien plus tard l'évolutionnisme. Mais à l'époque, le terme d'évolution a un sens tout différent. Il désigne le développement de l'individu dans le contexte de la préformation au sein du germe et généralement d'ailleurs de l'ovule. Je ne retiendrai ici qu'une seule contribution, celle du grand Maupertuis, jalousé par Voltaire, mais observateur, expérimentateur et théoricien remarquable. Il se convainc du rôle équilibré des gamètes des deux parents dans la formation de la nouvelle génération, cela grâce à une série d'observations remarquables pour l'époque, et il se convainc aussi de ce que nous appellerions aujourd'hui la transmission entre générations d'une information et non pas d'une structure. Il est donc favorable à l'épigénèse. Dans ces conditions, écrit-il, ne pourrait-on pas expliquer comment, de deux seuls individus, la multiplication des espèces les plus dissemblables aurait pu s'en suivre? Elles n'auraient dû leur première origine qu'à quelques productions fortuites, dans lesquelles les parties élémentaires n'aurait pas retenu l'ordre qu'elle tenait dans les animaux père et mère, chaque degré d'erreur aurait fait une nouvelle espèce. Eh bien, je vous laisse lire ce texte célèbre qui me semble-t-il, fonde pratiquement l'évolutionnisme et que discuta d'ailleurs Diderot avec enthousiasme. Disons rapidement qu'à la fin du siècle des Lumières, la société cultivée est déjà familiarisée avec certaines notions essentielles du transformisme naissant. Unité de la matière et du monde vivant, grande durée de l'histoire de la Terre, origine animale de l'homme, variation soit fortuite, soit sous l'influence du milieu, effet de l'usage ou du non-usage des organes, qui est admis universellement à l'époque, hérédité des caractères acquis, qui va également de soi à l'époque, élimination des non-viables, ce que note Maupertuis, mutabilité des espèces, théorie des analogues, comme on dit à l'époque, qui deviendront avec Owen la théorie des homologies. Il restera à combiner rationnellement ces considérations pour parvenir à un transformisme généralisé, et le pas est franchi en 1800 avec Lamarck. Celui-ci reste généralement considéré, surtout en France, comme le véritable père d'une théorie générale de la réalité de l'évolution du vivant. En fait, sa pensée demeure pleine d'ambiguïté, comme des recherches historiographiques récentes le montrent bien, et cela sans doute du fait de son attachement à une chimie de son cru et obsolète, puisque très antérieure à celle de Lavoisier. Je ne m'attarderai donc pas outre mesure sur Lamarck, sinon pour vous faire remarquer quand même à droite de la figure sa série rameuse qui fait le passage entre les animaux dits apathiques, les animaux sensibles et finalement les animaux intelligents. Il y a là les linéaments de ce qu'on pourrait appeler une phylogénie. Il va de soi que dans cet exposé, j'utiliserai constamment l'anachronisme de manière volontaire, tout simplement pour faire vite. Il est tant évident que les termes et concepts que nous utilisons à l'époque ne sont plaqués que de manière très approximative sur les conceptions de nos lointains devanciers. On peut résumer la pensée lamarckienne sous la forme des deux célèbres lois que même encore dans les écoles on enseignait du temps de ma jeunesse. Première loi, développement des parties ou organes selon l'usage ou le non-usage que les organismes en font. Et seconde loi, hérédité des caractères acquis. L'ensemble justifiant ou étant censé expliquer la prodigieuse diversité du monde vivant. Après Lamarck, je passerai très rapidement sur son contemporain, Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, qui va mettre en avant la notion d'homologie qu'il appelle encore analogie. Le terme d'homologie lui-même, je l'ai déjà dit, n'étant introduit au sens pratiquement moderne que par Owen à partir des années 1830. Ce qui est fondamental chez Geoffroy, c'est sa conception d'unité de plan. Cette unité de plan, il la recherche d'abord au sein des vertébrés, comme vous le voyez sur la figure de gauche, où différents squelettes présentés de manière sensiblement identique, parallèles les uns aux autres, nous montrent évidemment cette correspondance mystérieuse mais néanmoins frappante existant entre les différents éléments de ce puzzle d'éléments phosphocalciques constitué par le squelette des vertébrés. Pourquoi ces ressemblances, cette correspondance des structures, bien que les modes de fonctionnement des divers animaux considérés soient profondément différents? Eh bien, c'est cette notion d'unité de plan que poursuit Geoffroy, son essai de zoologie philosophique en quelque sorte, qui va l'opposer de manière célèbre avec son contemporain Cuvier et ici même en 1830 lors de la célèbre discussion qui a tellement intéressé Goethe sur l'unité de plan. Geoffroy, à l'époque, avait été un petit peu loin puisqu'il avait proposé d'étendre cette unité de plan à tous les animaux pluricellulaires et Cuvier n'avait pas eu trop de difficultés à montrer que ce n'était pas recevable. L'histoire des sciences a quelquefois des clins d'œil étonnants puisque 180 ans après environ, les découvertes de la génétique moléculaire du développement ont montré qu'il y avait des choses de valables dans les intuitions très généralisantes de Geoffroy Saint-Hilaire, comme le rappelle le schéma de gauche où la coupe transversale d'un embryon d'arthropode en haut et celle d'un embryon de vertébré, mais retourné sa face ventrale vers le bas, en bas, nous montre la coïncidence dans les lieux d'expression d'un certain nombre de gènes jouant un rôle très important dans le développement. Les intuitions de Geoffroy se révèlent donc encore aujourd'hui intéressantes. Venons-en à Darwin, qui introduit à l'évolutionnisme moderne, pourrait-on dire, car il va introduire ces deux idées forces, la descendance avec modification, c'est-à-dire au fond la réalité matérielle et historique de l'évolution. Avant lui, on pouvait se demander si toutes ces comparaisons, si ces recherches d'homologie correspondaient véritablement à l'idée d'une transformation réelle des organismes au cours de l'histoire réelle du monde, ou s'il ne s'agissait pas plutôt de comparaisons à caractère simplement abstrait ou platonicienne. C'est pourquoi il est si difficile aujourd'hui de lire, même avec beaucoup de sympathie, pour comprendre le sens profond de nombreux transformistes pré-darwiniens. Deuxième idée fondamentale, la sélection naturelle qui va constituer le mécanisme sous-jacent rendant compte de la descendance avec modification. Je passe assez rapidement sur Darwin puisque Kevin Padian nous en parlera dans un instant. On a dit aussi, Philippe Taquet a rappelé l'importance de son voyage autour du monde sur le Beagle qui va fournir Darwin en une multitude de données naturalistes bien précises. Et j'en viens à ce schéma qu'a proposé Jean Gaillon il y a déjà quelques années sur la logique de l'argumentation dans l'origine des espèces. Darwin part d'un certain nombre de prémices empiriques, mais dans un domaine limité de fait, bien contrôlé. Le taux de reproduction des organismes, qui est potentiellement immense, mais compensé par la limitation des ressources dans n'importe quel environnement concret, et enfin le fait qu'à l'intérieur de toute population d'organismes, eh bien, il y a de la variabilité, il y a de la variation, tous les organismes ne sont pas rigoureusement semblables ni stéréotypés, et il y a aussi de l'hérédité, c'est-à-dire que cette variabilité est transmissible à la descendance. Un modèle analogique, la sélection artificielle, celle pratiquée par les éleveurs, confrontée aux données de base que remarque Darwin, lui permet de poser sa simple hypothèse de la sélection naturelle. Et cette hypothèse, à son tour, va rendre compte d'une multitude de faits. Et donc la valeur heuristique, pourrait-on dire, de la théorie va ainsi être augmentée de manière absolument considérable, puisque les faits de classification, les faits d'homologie, de divergence, d'extinction, etc., etc., peuvent tous être éclairés par cette hypothèse de la sélection naturelle. Vous voyez donc quel est le mode de raisonnement. La mise en valeur de la sélection naturelle est plus du domaine de la monstration, au fond par accumulation de données circonstancielles, plutôt qu'une véritable démonstration formelle. On peut retenir donc ces notions variation en relation avec l'hérédité, le fait d'une sélection naturelle qui devrait exister dans la nature, le fait que les espèces nouvelles apparaissent selon un processus de spéciation, l'importance du hasard qui va correspondre à ce que nous appellerons beaucoup plus tard les mutations rendant compte finalement à la base de la variabilité au sein des espèces, le temps avec ses durées paléontologiques considérables, indispensables au fonctionnement du système, et l'ensemble de ce système rendant compte de multitudes de faits supplémentaires du domaine de l'embryologie, du comportement, etc. Donc, un noyau, en quelque sorte, de concepts avec leurs conséquences qui vont fonder, en quelque sorte, l'interprétation de Darwin. Mais Darwin va beaucoup plus loin, et c'est quelque chose que l'on a peut-être moins mis en valeur au cours des 150 dernières années. Il parle de l'importance des caractères du développement dans l'évolution. Il parle de la notion de bricolage de l'évolution. Il parle de la notion de changement de fonction de certaines structures, ce que l'on redécouvrira bien plus tard avec le terme d'exaptation proposé par Gould et Verbaugh. Toutes ces notions sont en fait explicites dans Darwin. Enfin, dans le chapitre 4, il y a ce célèbre schéma de la page 117, schéma qui est repris chapitre après chapitre dans l'origine des espèces et qui est utilisé par Darwin de manière extrêmement variée, il faut le souligner, d'une manière pour ainsi dire fractale, puisque ce schéma lui sert à expliquer les différences interindividuelles pratiquement au sein de populations, voire de familles, et des différences interspécifiques, supraspécifiques, et ces dernières pouvant être placées finalement ou replacées dans un cadre stratigraphique. Ce schéma est extraordinairement polysémique chez Darwin, il faut y prendre attention. Réception du darwinisme, on en a parlé à propos de cette Académie des sciences, mais ce problème de la réception du darwinisme est un problème absolument général en histoire des sciences. Les faits apportés par Darwin, généralement, sont assez peu contestés, et la descendance avec modification est généralement assez peu contestée. Cependant, le processus proposé par Darwin du mécanisme évolutif, c'est-à-dire la sélection naturelle, va demeurer, lui, extrêmement contesté et cependant fort longtemps. Un exemple des difficultés d'interprétation nous est illustré par les travaux d'Ernst Haeckel, célèbre darwinien allemand, qui va répandre le darwinisme dans les pays de la langue allemande, mais dont le darwinisme est en fait très fortement matiné de lamarckisme, et ceci est un exemple de toutes les ambiguïtés liées à la réception du darwinisme. De même, Darwin est très souvent affublé d'une multitude de considérations supplémentaires et d'hypothèses auxiliaires. Sur ce schéma où nous avons une grande diversité de niveaux explicatifs, eh bien, la sélection naturelle darwinienne ne représente que la case située à l'extrême gauche. Donc beaucoup de théoriciens après Darwin essayent de rajouter toute une série d'épistructures, si je peux le dire ainsi, à la sélection naturelle darwinienne, et souvent avec un succès relativement très limité. Beaucoup de ces épistructures surajoutées, en fait, tente à réintroduire l'idée d'une directionnalité générale de l'évolution ou d'une espèce de moteur interne qui, au-delà de la sélection naturelle, rendrait compte véritablement et en profondeur du phénomène évolutif. Il y a aussi des alternatives plus franches au darwinisme, dont un exemple nous est donné par les néo-lamarckiens américains, qui sont des paléontologues techniquement d'une grande qualité à l'époque où ils exercent, notamment Edward Cope, qui fera faire des progrès fondamentaux à la paléontologie des tétrapodes inférieurs, notamment les tétrapodes du Permien du Texas par exemple, et Alpheus Hyatt, grand spécialiste des invertébrés fossiles. Eh bien, ces paléontologues dits néo-lamarckiens sont absolument persuadés qu'il existe en quelque sorte des forces internes contrôlant et dirigeant la totalité de l'évolution, bien au-delà de la sélection naturelle darwinienne. Parmi ces considérations d'une espèce de direction de force évolutive impossible à contrer en quelque sorte et indépendante de la sélection naturelle, eh bien, il y a les notions qui ont été connues pendant bien longtemps sous le nom d'orthogénèse, c'est-à-dire d'évolution en ligne droite. Et ceci a été particulièrement défendu par des paléontologues. En haut à gauche, vous avez le célèbre Cervus megacerus, le grand cerf des tourbières de la galerie de paléontologie de l'évolution, puis en bas à droite un tigre à longue canine. Ces organismes ont été interprétés dans une perspective orthogénéticiste comme des hypertélies, c'est-à-dire des cas où l'évolution dépasse en quelque sorte son propre but fonctionnel et son optimalité pour donner naissance à des organismes en quelque sorte ultra-évolués et donc mal adaptés. Bien entendu, les théories plus modernes de l'évolution n'ont pas retenu de telles visions. Autre exemple de cette notion orthogénétique très en vogue dans la paléontologie du début du XXe siècle, ici le célèbre cas des titanotères, donc ces mammifères surtout connus d'Amérique du Nord, qui selon Osborne évoluent pratiquement et pour ainsi dire inéluctablement en ligne droite selon une direction qui d'ailleurs les mènera également en ligne droite à l'extinction. Alors, parmi toutes ces alternatives au darwinisme, disons quand même un mot des néo-lamarckiens français. Ces gens ont été peu étudiés du point de vue de l'histoire des sciences, sauf quelques thèses relativement très récentes. Ces néo-lamarckiens français ont eu un rôle très important dans notre pays, puisqu'ils ont pratiquement dominé les structures universitaires officielles pendant très très longtemps. Et pour le dire vite, en arrivant à la fin de cette énumération des caractéristiques intellectuelles du néo-darwinisme français, ils vont précipiter une crise dévastatrice de la biologie évolutionniste en France qui va durer fort longtemps. Voilà quelques-uns des protagonismes de ce qu'on ne peut pas appeler véritablement une école, mais enfin la plupart des savants français de la Troisième République peuvent être regroupés sous cette étiquette de néo-lamarckisme qui considère que c'est l'action directe du milieu sur les organismes individuels qui va en quelque sorte les modeler en les adaptant de manière optimale à leur environnement et que cela va être retransmis de génération en génération compte tenu de la persistance des caractères acquis. Ceci va entraîner des programmes de recherche typiquement néo-lamarckiens, dont l'un en botanique sera développé par le célèbre Gaston Bonnier, célèbre par ses flores que nos étudiants peuvent encore utiliser. Et Gaston Bonnier, dans le laboratoire de Fontainebleau à Avon, où j'ai enseigné l'écologie pratiquée aux étudiants, nous montre que si l'on transplante en plaine des plantes de montagne ou réciproquement, on va assister à des transformations massives de la morphologie et même de l'histologie, de la structure micro-anatomique de ces végétaux, ces transformations étant adaptatives relatives à leur nouvel environnement. On croit ainsi étudier expérimentalement l'évolution. En fait, on montre simplement la plasticité écophénotypique. Au tournant du siècle, révolution nouvelle avec la découverte de la mutation par Hugo de Vries. Il y a apparition brutale et de manière totalement aléatoire de mutants dans ces plantations expérimentales des Notera lamarckiana qui vont manifester donc brutalement des transformations qui se révèlent d'emblée stables et ces transformations ne peuvent aucunement être liées à une quelconque adaptation ou amélioration de la vie de l'organisme muté relativement à son environnement. Et ainsi, on va se trouver confronté à une série de contradictions qui vont nous faire pénétrer dans la crise du transformisme de l'extrême fin du XIXe siècle. Et comme le dit August Weismann, il va nous rester le hasard et il n'y a pas d'hérédité des caractères acquis. Alors, que faire dans cette crise du transformisme ? Eh bien, la solution va venir avec la théorie synthétique de l'évolution qui va progressivement se dégager de la fusion, pourrait-on dire, entre un certain nombre de données préalablement disponibles, d'une part les données du néo-darwinisme et d'autre part les données issues de la découverte des mutations puis issues très rapidement de la redécouverte des lois de Mendel et de l'élaboration de la théorie chromosomique de l'hérédité. Finalement, la théorie synthétique de l'évolution va correspondre à la synthèse entre ces différentes composantes, synthèse qui va s'organiser progressivement des années 20 aux années 40. À la base de tout cela, évidemment, la redécouverte des lois de Mendel, mais simplement quelques commentaires de Bateson qui sont très remarquables, puisque Bateson montre à quel point la connaissance de la transmission des caractères héréditaires va devenir un élément absolument fondamental pour la compréhension mécanistique de l'évolution. Ceci en 1900. Donc, mutation au hasard, rarement favorable, il y a de la sélection, il y a de l'évolution. Le transformisme est-il en crise? Eh bien, tout cela n'est probablement pas, malgré tout, irréductiblement complexe, aurait pensé Darwin âgé. Et comment s'en sortir? Grâce aux propositions de la théorie synthétique de l'évolution. Il y a d'abord à régler les problèmes entre la compréhension des caractères discontinus tels qu'ils sont pris en compte par la génétique et des caractères continus tels qu'ils sont pris en compte par les biométriciens. Il y a aussi à régler un certain nombre de problèmes des relations entre la génétique et le développement. Et contrairement à une phase du tout début du XXe siècle, Morgan va essayer de bien montrer qu'il n'y a pas cette correspondance, un gène, un caractère absolument général à la base de la génétique, comme ne voulaient pas l'admettre les néo-lamarckiens français, mais en fait que les rapports entre génotypes et phénotypes sont quelque chose d'infiniment plus complexe et plus riche que cette correspondance un peu naïve par laquelle avait débuté la génétique naissante. Finalement, on arrive ainsi à la génétique des populations avec ses fondateurs, tous des anglo-saxons fondamentalement et aussi quelques soviétiques, donc Fischer, qui fait bien remarquer que l'apparition d'une mutation ne signifie pas que ce soit une réponse adaptative évidemment à l'agent mutagène. La mutation apparaît au hasard. Si des allèles d'un même gène ont une valeur sélective différentes. Et si, par exemple, vous avez ici l'hétérozygote, la valeur sera intermédiaire entre celle des deux homozygotes parentaux, eh bien, si, par exemple, un caractère phénotypique comme la résistance au DDT va être dû à un grand nombre d'allèles, en un certain nombre de générations, la sélection naturelle, cela pourrait être démontré expérimentalement, sera capable de trier une série de sous-populations, disons, qui vont manifester des caractéristiques de fréquence génique différentes. Et c'est là-dessus, évidemment, que va jouer la sélection naturelle. Un nombre de générations assez faible peut être suffisant pour permettre à la sélection naturelle d'exercer sa pression. Donc, parmi les créateurs de la théorie synthétique, Fischer, Haldane et Sewall Wright ont joué un rôle absolument pionnier jusque dans les années 1940 et au-delà. La synthèse est explicitement précisée par Julian Huxley en 1942. C'est essentiellement une réunion de la génétique des populations, de la systématique et de la paléontologie autour du concept d'espèce biologique. La paléontologie se joint à ce concert principalement sous l'influence de George Gaylor Simpson. Cette synthèse qui va arriver à maturité au début des années 50, il faut d'ailleurs bien préciser qu'elle est parfaitement connue dans notre pays dès cette époque. Cette synthèse va aussi présenter, pourrait-on dire, en satellite, un certain nombre de contributeurs qui seront à l'époque considérés comme peu ou pas orthodoxes, mais qui auront joué un rôle très important dans un certain nombre de futures idées qui prendront corps au cours de ce qu'on pourrait appeler la période plus récente de post-synthèse classique. Parmi ces pionniers, eh bien, il y a Bateson qui va être un pionnier de la notion d'homéose. Dès la fin du 19e siècle, il découvre ces mutants extraordinaires où, par exemple, à la place d'une antenne, on retrouve une patte et on sait toute l'importance qu'auront ces découvertes quand elles seront capables d'être interprétées à partir des années 1980 par la génétique moléculaire du développement. Waddington va lui aussi ouvrir un certain nombre de pistes. Il est considéré comme un hétérodoxe du temps où la synthèse orthodoxe fleurit, mais bien de ses idées seront remises en selle et feront l'objet de discussions très très actives à partir des années 2000. Il en sera sans doute question aujourd'hui. De même pour Sir Gavin de Beer, qui discute des bases embryologiques de l'homologie et qui va proposer une systématique des hétérochronies qui sera reprise et modulée plus tard par Stephen Jay Gould. Enfin, le monstre prometteur, le rôle des gènes de contrôle par Richard Goldschmidt, qui va insister lui aussi sur l'importance de l'homéose. Alors tout cela, ce sont un petit peu des mavericks, comme diraient les anglo-saxons, autant de l'orthodoxie de la synthèse, mais des gens dont l'importance intellectuelle n'est pas douteuse. Finalement, on arrive à la période qui commence grosso modo aux années 70, et il y a une multitude de domaines aussi bien issus du micromonde moléculaire que du macromonde de la paléontologie, de la géologie avec les grandes crises, qui vont bouleverser, pas véritablement, mais surtout enrichir à tous les niveaux d'intégration de façon absolument prodigieuse la théorie synthétique de l'évolution dans ses aspects orthodoxes, en y intégrant en particulier toutes les données de l'évo-dévo. Bon, ceci va entraîner des modifications assez drastiques dans certains aspects de la génétique des populations. On peut citer en particulier le rôle important du généticien et mathématicien français Maléco, qui affirme que la dérive aléatoire est un facteur majeur de l'évolution des espèces, alors que cette idée n'était pas très bien en cours dans les années 50. Parmi toutes les découvertes, je passe très très rapidement, eh bien, il y a celle non pas d'une certaine stabilité, mais au contraire d'une extraordinaire fluidité du génome, ce qui peut être illustré par la découverte de l'importance des transposons, qui constituent une partie non négligeable du génome des eucaryotes. Et ces éléments baladeurs, en quelque sorte que sont les transposons, peuvent se fixer dans des génomes, envahir des populations, cela a des vitesses absolument considérables, et on a pu ainsi dater l'invasion du génome de la célèbre mouche du vinaigre par un certain nombre de transposons et même les voies géographiques de cette invasion. Il est à noter que les transposons peuvent jouer un rôle très important et relativement très rapide dans l'évolution. Autre révolution, à partir des années 70, les méthodes de la systématique sont entièrement modifiées et renouvelées. C'est la méthode cladistique qui renouvelle totalement la vision que nous avions de la méthodologie systématique. On arrive à une véritable science nouvelle, la phylogénétique, s'appliquant aussi bien au niveau des organismes et de leur caractère phénotypique qu'au niveau moléculaire. On peut synthétiser toute cette nouvelle synthèse par l'action de Stephen Jay Gould, malheureusement disparu en 2002, qui va insister sur des idées anciennes, comme les contraintes architecturales du développement, sur l'importance des hétérochronies de développement, sur l'exaptation qui avait été soupçonnée en France par Lucien Queneau dans les années 30 sous le terme de préadaptation, et qui va proposer au fond une espèce de super synthèse où la sélection, au lieu de s'exercer exclusivement entre les individus au sein des populations, va s'exercer à une multitude de niveaux hiérarchiques différentiels. Je termine en rappelant ici un certain nombre des travaux fondamentaux de Stephen Jay Gould. Ici, les horloges permettant une formalisation des hétérochronies de développement. Je termine aussi en disant que les missing links qui manquaient si cruellement à Darwin ne manquent plus, et que parmi ces missing links, nous avons des transitions maintenant fort satisfaisantes entre les petits dinosaures carnivores bipèdes et les oiseaux, et que les plumes ne sont pas une exclusivité des oiseaux. Je termine aussi en disant que la paléontologie se prolonge à l'heure actuelle très loin dans le précambrien, dans le néoprotérozoïque, avec la découverte tous les jours de fossiles fantastiques qui ouvrent des horizons nouveaux, par exemple sur l'ancienneté des triploblastiques, dont on a maintenant des exemples concrets 50 millions d'années avant le début de l'explosion cambrienne. Rôle des grandes crises, ici j'ai représenté un impact, pardon Courtillo, j'aurais pu tout aussi bien représenter une explosion volcanique massive. Et donc on pourrait croire que tout va pour le mieux dans le monde darwinien, eh bien pas du tout. Le créationnisme anti-scientifique, on l'a dit, reste très actif au niveau mondial. Voici le dernier exemple en date, le dessin intelligent distribué en France même en DVD en juin 2009. Donc il convient de rester vigilant. Je vous remercie.
Vous venez d'écouter l'exposé du professeur Armand de Réclès sur l'évolution des idées sur le darwinisme. Vous pouvez également écouter les deux autres retransmissions sur l'existence et les causes des grandes catastrophes liant l'évolution de la vie et celle de la Terre. Comment un préhumain s'est fait homme? L'embryologie est-elle darwinienne? L'origine et l'évolution des vertébrés? Et le rôle de la crête neurale dans le développement et l'évolution des vertébrés. Merci pour votre écoute et à bientôt pour de prochaines retransmissions.